Le père d'Einstein est en train de mourir. Il a un peu plus de 50 ans. Einstein se dépêche, arrive au chevet de son papa, et là, son père lui parle. Il lui parle d'une voix qu'il n'avait jamais connue, doux, tendre. C'était quand même quelqu'un de dur, très viril. Et sur son lit de mort, il lui dit « Albert, je t'en prie, si tu aimes Mileva, épouse-la. » Et il s'arrange pour dire ça à son fils devant sa femme Pauline, qui elle était alors carrément opposée. Mais le fait que sur son lit de mort, Hermann ait dit cela, eh bien, Pauline a acquiescé et a dit « D'accord, vous pouvez vous marier. » Seulement voilà, Einstein voulait voir partir son père, l'accompagner. Mais son père n'a pas voulu que son fils emporte de lui l'image de quelqu'un qui se dégrade progressivement en allant vers l'étape ultime. Et il lui a dit « Maintenant, je te donne un dernier ordre, pars, je veux mourir seul. » Et Einstein est parti, et Hermann est mort très peu de temps après. Il est retourné à l'Institut Polytechnique, et là, ils se sont mariés. Einstein, à son examen de sortie de Polytechnique, n'est pas arrivé premier. Ça étonnera personne. D'abord à cause des profs, et puis le fait qu'on lui ait mis des notes minimales dans les matières où vraiment ça l'intéressait pas. Et malgré ce, il est arrivé quatrième, avec les notes maximales en maths et en physique. Sortant de l'école polytechnique, les élèves ingénieurs étaient susceptibles d'avoir un poste de répétiteur à l'école elle-même, d'assistant, sur indication des professeurs. S'étant mis tous les professeurs à dos, il n'a eu aucun poste. Et le voilà marié avec Mileva, cherchant un endroit où gagner de l'argent pour ne pas mourir de faim, car il ne voulait surtout pas demander quelque chose à sa mère, qui se retrouvait évidemment veuve. Il fait des affiches sur lesquelles il marque Albert Einstein, titulaire du diplôme de l'Institut Polytechnique de Zurich, donne des leçons à des élèves qui le souhaitent, première leçon gratuite. Alors, son premier élève fut Solovine. C'est le premier qui est venu, il tape à la porte de la petite chambre où il se trouvait. J'ai oublié de vous dire en parlant de cette chambre. Lorsqu'ils se sont mariés avec Mileva, ils n'avaient pas un sou en poche. Ils se sont mariés donc à la mairie, ils ont fait la fête dans un café avec les copains. Et puis de là, il a emmené sa femme dans la petite chambre qu'il avait louée chez un propriétaire, une petite mansarde toute petite, avec un loyer minimum. Mais le soir, lorsqu'il est arrivé devant la porte, il avait oublié la clé. Voilà. Solovine frappe à la porte et il entend une voix gutturale « Entrez !» Il entre. Il voit quelqu'un qui est courbé, qui est en train d'écrire, avec des bouffées de fumée là, qui se dégagent à travers les cheveux. Et puis d'un coup, parce qu'il était jeune, il était pratiquement aussi jeune que son élève qui venait le voir, il se retourne et quand il a vu les yeux d'Einstein, il est tombé tout de suite sous le charme. Et Einstein lui a dit « Mais pourquoi venez-vous prendre des leçons ?»« Ben parce que je suis allé voir un professeur, j'ai posé des questions. » Et malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Quels sont vos problèmes sur l'électrodynamisme? Alors ils se sont assis et Einstein a commencé à parler. Einstein, au bout de 2 heures, était obligé d'aller chercher je ne sais pas qui. Il s'est levé, il a raccompagné Solovine à la porte, comme si c'était un ami. L'autre est revenu et il n'a jamais payé Einstein. Il a donné quand même quelques leçons et puis il a trouvé un poste de répétiteur au collège Schaffhausen. Dans ce collège, c'était le maître habillé, col, cravate, la petite baguette, faire aligner les étudiants avant qu'ils rentrent, lui rentrer solennellement, se mettre sur l'estrade, devant sa cathédra, et devant sa cathédra, dire « Asseyez-vous ». Et la leçon commençait, et quand il sortait, personne n'avait le droit de parler, personne n'avait le droit de poser des questions. Tout le monde repassait dans le bon ordre et presque au pas devant le professeur. Voilà. Ça, Einstein, il ne pouvait pas. C'était impossible pour lui de faire ça. Donc la première fois qu'il arrive dans la classe, le directeur qui le regarde et qui lui dit, mais Herr professeur, c'est ça va pas ça. Alors bon, la fois d'après, il a essayé d'un peu mieux se mettre, de se coiffer, ce qu'il faisait jamais. L'autre a vu qu'il faisait un effort, mais dans toutes les classes, il y avait une porte. Par le Judas, le directeur regardait d'une part comment se comportaient les étudiants, mais surtout comment se comportait le professeur. Et alors mon Einstein, il a fait trois cours, il n'en a pas fait d'autres, en entrant dans la classe, en disant bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Il a pris une chaise, il s'est assis, et puis il disait venez, venez, venez près de moi, et puis il s'asseyait en rond devant l'école. Le directeur a vu ça par le Judas, la première fois, il n'en revenait pas. Il est rentré, il a dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? La deuxième fois, bon, Einstein a fait son cours à la cathédrale, mais la façon dont il faisait son cours, il ne comprenait pas. Il faisait des mathématiques sans presque écrire une formule au tableau. Alors, c'est là qu'on en vient à la capacité intellectuelle d'Einstein. Je vous ai parlé avec Aristote du principe de causalité, du déterminisme, et avec la relativité complexe, de la dualité, intuition, raison. Un cartésianiste qui fait son protocole et qui est totalement dépourvu d'intuition pourrait être un bon technicien, mais ça s'arrêtera là. C'est l'intuition qui fait le génie du chercheur. Je vais vous lire la révélation de la relativité restreinte. On ignore de quoi il dîna ce soir-là. Réveilla le lendemain dans un état de grande agitation, comme si, d'après ses propres mots, un orage avait éclaté dans mon cerveau. Quelqu'un qui a une intuition, c'est un flash. Une intuition, c'est quelque chose d'indicible. C'est quelque chose qui n'est pas matériel. Le génie, c'est de rendre matériel quelque chose qui est intuitif. Vous êtes un tabernacle où le vent de l'esprit de l'univers passe. Vous êtes prêt, vous retenez, c'est l'intuition, il y a le flash. Le génie, c'est de prendre cette intuition, de la matérialiser et de la codifier. Une intuition, attention, ce n'est pas une phrase, elle n'est pas codée, ce n'est pas une phrase mathématique, ce n'est pas une phrase de langage parlé, il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a rien. L'intuition arrive, intuitérée, elle vous tombe dessus. Le génie, c'est de la transformer en quelques pages d'ombre, d'encre matérialisée. Quand on a un orage dans le cerveau, c'est qu'on a tout fait quand même pour que cet orage arrive. Donc, d'après ses propres mots, un orage avait éclaté dans mon cerveau et la tempête avait apporté la lumière. Il avait enfin percé les pensées de Dieu et touché du doigt le plan directeur de l'univers. Banesh Hoffman confirma ce récit en racontant. Einstein disait qu'il avait effectué sa principale découverte au réveil, un matin, en voyant littéralement, d'un coup, la solution. Il n'a même pas analysé sur le coup, il a vu. C'est ça l'intuition. L'idée avait brusquement fait irruption dans son esprit conscient après lui avoir tourné dans la tête pendant des années. On sait que les idées les plus brillantes surgissent au moment les plus étranges. On se promène. On est perdu en forêt et l'idée s'impose soudain, comme si elle venait de quelque part. Einstein a dit quelque chose de très intéressant un jour où nous réfléchissions ensemble à quelques problèmes et où nous nous demandions « Est-ce qu'on pourrait trouver une autre idée pour résoudre ce problème ?» Et il a dit « Les idées viennent de Dieu. » Donc vous allez me dire « C'est de la religiosité. » Mais pour lui, Dieu, c'est pas ça, sa définition de Dieu. Il ne croyait pas en un Dieu particulier, ni à rien qui y ressemble. On ne peut pas ordonner à une idée de surgir. Elle apparaît quand elle est prête. C'est ce qu'il exprimait en ces termes. Les idées viennent de Dieu. La révélation d'Einstein à son réveil ce matin-là dépassait l'électricité, le magnétisme, la matière et le mouvement. Elle touchait à la nature de la lumière, de l'espace et du temps, au secret même de la création. Rencontrant Bessot, je parlerai après de l'Académie Olympia, où il y avait Michele Besso. Besso était un Italien, mathématicien de très très haut niveau, avec qui il avait travaillé. Il avait parlé de sa relativité, c'était le seul qui pouvait l'écouter en fait. Rencontrant Bessot plus tard au cours de la même journée, il ne lui livra aucun indice de sa découverte fabuleuse ni du spectaculaire accouchement. Il se contenta de le saluer et de répondre à l'autre qui lui disait « Comment ça va ?»« Merci, dit-il, j'ai complètement résolu le problème. » Le physicien Stanley Goldberg explique ainsi la découverte d'Einstein, cette chose qui apparut soudain aux yeux d'Einstein au printemps 1905, souvenez bien de cette date, et que les mesures d'espace et de temps sont étroitement dépendantes du concept de simultanéité. Je vous expliquerai ça après. Un observateur ne peut considérer des événements comme simultanés que dans son environnement immédiat. Comme Einstein le dit lui-même, la solution m'est venue d'un coup, avec l'idée que nos lois et concepts d'espace-temps ne sont valables que dans la mesure où ils sont en relation évidente avec notre expérience. Et cette expérience peut avoir pour conséquence une altération de ces lois et concepts. Je suis arrivé à la théorie de la relativité restreinte en transformant le concept de simultanéité en une notion plus malléable, c'est-à-dire matérialisée. Einstein estimait que son inspiration devait beaucoup aux idées d'Ernest Mach et surtout de David Hume, dont j'ai étudié avec ferveur et admiration le traité sur l'intelligence peu avant la découverte de la théorie de la relativité. Je n'aurais peut-être pas trouvé la solution sans ces études philosophiques. Tout est important quand il va y avoir une cristallisation de quelque chose. Tout est important, le moindre détail, la moindre lecture philosophique, la moindre altercation avec un philosophe ou un autre scientifique. Les semaines suivantes, il consacra posséder ses moindres instants de liberté à couvrir 31 pages de son écriture nette et fine. La version finale de l'article, intitulée « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement », ne comporta curieusement ni notes de bas de page ni référence, comme si l'inspiration lui était venue sinon de Dieu, du moins d'une source étrangère à ce monde. Il remerciait cependant Bessot pour son aide.